Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, ce journal s'ouvre par cette révélation accablante de l'IGF faite hier samedi 2 avril. Plus de 10 millions de dollars américains des droits dus à l'État par les exploitants forestiers n'ont pas été payés entre 2014 et 2020. Et pour en savoir davantage, restez avec nous pour suivre ce journal. Et sur le plan sécuritaire, toujours dans ce journal, nous vous faisons part du bilan que dresse la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori. C'est en rapport avec les exactions des ADF dans plusieurs villages de ce secteur. Durant le mois de mars, 36 personnes ont été tuées et plusieurs femmes violées par ces rebelles. Il intervient fin de cette édition comme invité. Dr José Tchanga, point focal de l'UNICEF, va nous parler de la promotion de la vaccination des routines avec ce don de l'UNICEF des pirogues aux zones de santé riveraines. Mesdames et messieurs, merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. À la présentation de ce journal, Billy Van Lutumba. Plus de 10 millions de dollars américains de droits dus à l'État par les exploitants forestiers n'ont pas été payés entre 2014 et 2020. C'est la conclusion du rapport de l'Inspection générale des finances IGF établi en mai dernier et publié samedi 2 avril. Selon ce même rapport, l'audit de l'IGF sur la gestion du secteur forestier de la RDC a été sollicité par le gouvernement de la République. Paul Matendo.
Selon l'Inspection générale des finances, l'analyse de la gestion du patrimoine forestier de l'État au regard du moratoire fixé par le décret du 24 octobre 2005 et ses textes réglementaires d'application a conduit l'équipe de contrôle de l'IGF à constater que près de plus de 10 millions de dollars des droits dus à l'État congolais n'ont pas été versés par les exploitants forestiers sur une période de 6 ans, soit de 2014 à 2020, période concernée par cette enquête financière. En ce qui concerne les causes, les rapports de l'IGF citent notamment une violation du moratoire par l'administration forestière, des concessions rétrocédées à l'État par leur titulaire, ainsi que celles dont les titres ont été résiliés par l'administration pour plusieurs raisons ont été réalloués en violation aussi bien du moratoire que des dispositions pertinentes du code forestier, souligne ce rapport. La même source note également l'octroi de plusieurs concessions forestières sous le couvert des autorités de cession sans paiement des droits dus à l'État. En effet, en violation de la loi, les ministres ont autorisé des cessions de concessions forestières à des personnes ne détenant aucun titre forestier, ce qui ni plus ni moins constitue des ventes pures et simples des concessions forestières, peut-on lire dans ce rapport.
Inauguration hier samedi 2 avril à Bounia, en Ituri, du bâtiment qui abrite la mutuelle d'épargne et des crédits. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Nkasha Majoni, ainsi que d'autres responsables, ont encouragé la population à développer la culture de l'épargne malgré l'insécurité qui affecte les tissus économiques de la province. Ezekiel Mouzalia.
La province de l'Ituri n'a pas que l'insécurité à afficher à la face du monde, mais bien d'autres potentialités, dont le dynamisme de son peuple, ainsi que ses richesses du sol et sous-sol. Ce sont là les propos du gouverneur lors de l'inauguration de ces bâtiments construits 14 ans après la création de cette mutuelle d'épargne et de crédit de Bounia. Le gouverneur de province appelle la population à cultiver l'esprit de l'épargne pour relever les tissus économiques de la province détériorés par l'insécurité. Le lieutenant général Johnny Luboy Nkashama.
Je reste convaincu que la confiance des épargnants sera davantage consolidée par cette grande réalisation. Il suffit de faire preuve de sérieux, d'organisation et de discipline.
Une œuvre saluée par la société civile qui invite les membres des MECRE à travailler pour gagner la confiance des habitants qui avaient déjà perdu la culture de l'épargne.
Ce que nous pouvons dire est de continuer à sensibiliser la population. Parce que la plupart de la population, pour cause de l'ignorance, ne connaissent pas ce que c'est l'épargne.
Notons que plusieurs personnalités, organisations, institutions bancaires œuvrant à Bounia ont assisté à l'inauguration de ces bâtiments dont le coût global des travaux s'élève à plus d'un million de dollars. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, début hier samedi, en Mbujimayi, des travaux de construction et de modernisation de l'université
l'entité officielle de Mbujimayi UOM. La maquette du projet a été présentée vendredi aux autorités académiques et aux corps scientifiques par la société ZS Africa qui a gagné le marché auprès du gouvernement de la République qui finance les travaux dont le coût n'est pas jusque-là connu. Des explications avec Esther Ndalafina.
La première étape des travaux de modernisation qui va s'étaler d'abord sur une année consiste en l'érection des bâtiments devant abriter une dizaine d'amphithéâtres, quelques hommes pour les étudiants ainsi que les salles de restauration, affirme l'entrepreneur. La même source précise que les travaux seront exécutés conformément au protocole d'accord signé avec le gouvernement congolais. D'après les sources proches de l'entreprise, le gouvernement congolais a déjà financé la première étape des travaux. Le secrétaire général académique de l'Université officielle de Mbujimayi, représentant les recteurs en mission, a remercié les autorités nationales pour la construction des infrastructures pouvant permettre aux étudiants de suivre les enseignements dans un bon environnement. Il a en outre indiqué que les dispositions sont déjà prises pour que les cours ne soient pas perturbés tout au long des travaux de construction de cette université. Plusieurs étudiants ont manifesté leur reconnaissance aux autorités nationales. Ils souhaitent cependant que les travaux s'effectuent dans le délai, signalant que le respect des normes de modernisation de l'université officielle de Mbujimayi aura de l'incidence sur le développement du capital humain, déclarent certains professeurs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
La directrice exécutive de l'UNICEF a entamé ce dimanche une visite de 4 jours en RDC. À la tête de l'UNICEF depuis le 1er février dernier, Catherine Roussel veut voir l'UNICEF contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en cette période où des milliers d'enfants dans le monde subissent encore les effets de la pandémie de COVID-19 et bien d'autres crises multiformes. Rosalie Zawadi nous présente l'agenda de cette visite.
La directrice exécutive de l'UNICEF a commencé sa visite en RDC dimanche après-midi par la ville de Goma au Nord Kivu. À Goma, Madame Catherine Roussel va échanger lundi matin avec les gouverneurs de province, le lieutenant-général Constant Dima. Après les civilités, elle va visiter quelques projets appuyés par l'UNICEF au Nord Kivu. Il s'agit du projet d'adduction d'eau à Kiziba, en périphérie de Goma, ainsi que d'une école pour montrer les efforts de l'UNICEF en faveur des personnes vulnérables. Elle sera également à l'hôpital Île Africa de Goma pour se rendre compte du travail qui est fait en faveur des femmes victimes de violences sexuelle grâce à l'appui de l'UNICEF. Après Goma, Madame Roussel va se rendre mardi à Bunia dans la province de l'Ituri où elle visitera les camps des déplacés des Rohe ainsi qu'un centre de transit et d'orientation d'ex-enfants associés aux forces et groupes armés. Elle terminera sa visite en RDC par Kinshasa où elle rencontre mercredi le président de la République. Selon Jean-Jacques Simon de l'UNICEF, la RDC est le deuxième pays africain après le Rwanda que visite la directrice exécutive de l'UNICEF depuis sa prise de fonction en février dernier. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Dans le couple, l'homme devrait au moins une fois accompagner sa femme à la consultation prénatale et privilégier le dialogue et la concertation dans la planification familiale. Une recommandation de Dr. Francine Mamunga au cours d'une conférence organisée samedi 2 avril 2022 à Kinshasa par l'ONG Congo Organisation pour le Développement, l'Éducation et la Protection de l'Environnement, CODEP. Le thème de cette conférence était « Protéger la femme, c'est sauver et pérenniser la vie d'une nation ». Honoré Missenga Kalala.
L'ONG CODEP a choisi ce thème à l'occasion du mois de mars consacré à la promotion des droits de la femme. Pour le Dr. Francine Mamunga, cadre de cette ONG, la vie de la femme, l'un de ses droits fondamentaux, doit être protégé. Explication.
C'est la femme qui est au centre de l'humanité. C'est elle qui donne la vie. Nous avons montré l'importance qu'a la femme dans notre société. Comment la protéger afin de perpétuer la famille et la société.
Cette protection passe notamment par la planification familiale parce que, dit-elle, la maternité expose la propre vie de la femme, d'où cette interpellation du conjoint mâle.
Nous avons demandé que les papas accompagnent les fils qu'une seule fois les mamans pendant les consultations prénatales. La femme ne doit pas planifier la naissance seule, elle doit être accompagnée de son mari.
Au-delà du couple, les lois existent dans l'arsenal juridique du pays pour protéger la femme. Mais il y a un problème à expliquer pour sa part la juriste du CODEP, Maître Teresita Ekila.
Le problème est au niveau de l'applicabilité. En RDC, l'ennemi utilise la femme. La plus grande partie des victimes aujourd'hui, c'est la femme.
Et pour la juriste, le devoir de protéger la femme n'incombe pas qu'au couple et au gouvernement. C'est toute la nation qui doit se lever.
Les croyants musulmans de la province du Maïndombé ont officiellement ouvert samedi 2 avril 2022 les activités liées au mois d'avril synonyme du début de Ramadan. Cette ouverture a eu lieu au sein de leur mosquée située dans la commune de Bons et dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province. Pour le chef de l'entité de la communauté islamique au Congo dans le Maïndombé, ce Ramadan est l'un des 5 piliers que l'islam recommande aux croyants musulmans pour respecter. À cette occasion, Issa Izamba a appelé tous les musulmans au changement comportemental pendant ce mois de jeûne, au respect des lois du pays et à partager les biens avec ceux qui sont dans le besoin. Il a été joint par Irène Boma.
L'islam nous recommande de respecter 5 piliers. Parmi les 5, le 4e, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Nous devons jeûner pendant 30 jours. Nous avions commencé avec les premières activités qu'on appelle le karawé. Prier en groupe après la prière de l'Ishaï. On a fait le raka, au cours duquel on lit le Coran. Tous les musulmans de la province de Maïndombé doivent comprendre que nous ne pouvons faire que ce que Allah, le Créateur, nous recommande dans son livre sacré. Allah nous dit, il nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, comme il avait prescrit à ceux qui étaient avant nous, peut-être que nous serons des gagnants. Donc, le musulman doit être patient, endurant, généreux, respectueux, aux lois divines et aux lois du pays. Il faudra qu'à la fin de ce mois, l'on trouve un changement dans le comportement quotidien des musulmans. Nous avons senti qu'il y a un afflux de musulmans, il y a des nouveaux convertis. Il a dit que ceux qui ont les moyens, on donne à ceux qui n'en ont pas.
Au Nord Kivu, 36 personnes ont été tuées et des femmes violées par des rebelles ADF dans plusieurs villages du secteur de Rwenzori en territoire de Beni au cours du mois de mars 2022. Ce bilan a été dressé par la nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori ce samedi 2 avril. Pour son président, l'armée doit renforcer la présence militaire dans la région pour traquer les ennemis de la paix. André Kitenge pour les détails.
La nouvelle société civile congolaise révèle que ces personnes ont été tuées au cours de plusieurs attaques des rebelles ADF dans le secteur de Rwenzori. En dehors de ces personnes tuées, deux femmes ont été également violées et des dégâts matériels importants enregistrés. Meleki Mulala, président de la nouvelle société civile congolaise, plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans cette région.
Nous avons compté 36 personnes massacrées par les ADF avec 18 maisons incendiées et nous avons enregistré deux femmes violées. Nous alertons le gouvernement congolais de voir comment déployer les militaires ou soit renforcer l'effectif des militaires, mais aussi renforcer la capacité de frappe de nos vaillants militaires FRDC.
Pour sa part, l'armée congolaise indique que l'armée est présente dans la région. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord.
Il y a des patrouilles qui sont en train d'être menées. Aucune armée sérieuse au monde ne peut vous dire qu'elle a engagé dans les opérations autant de militaires. Donc, les 36 morts que la nouvelle société civile est en train de compter, c'est la guerre des chiffres. Nous, on n'est pas là pour compter des morts. Nous, on est là pour travailler.
Le capitaine Anthony Mwalushai appelle cependant la société civile à collaborer avec les FRDC pour mettre fin au phénomène ADF dans la région en dénonçant les assaillants. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Dans le sud Kivu, deux présumés voleurs sont morts après avoir été brûlés vifs par des habitants en colère dans le quartier Kai, commune de Bagira, dans la ville de Bukavu. Ces faits commencent vers 19h30 de ce samedi 2 avril alors que ces présumés bandits font incursion dans des petites maisons de vente des crédits d'appel téléphonique. Après leur forfait, des jeunes en colère ont décidé d'aller à la poursuite des bourreaux. Deux se sont cachés dans une maison où les opérations de vol ont eu lieu. La société civile qui livre cette information condamne les actes commis par les habitants en colère. Cela est contraire aux lois de la République. Patrick Mungu a conquis de la nouvelle société civile au micro de Rachel Kessembangu.
Nous étions informés par la population au cas de justice populaire qui venait de se passer dans la nuit du samedi 2 avril 2022 dans la commune de Bagira au quartier Chai. Ceci vient s'ajouter à plusieurs autres cas qui ne cessent de se répéter dans la ville de Bukavu. Et ceci, il s'avère que la justice continue toujours à manifester sa faiblesse quant au cas des personnes qui sont toujours arrêtées, qui sont toujours citées dans des triples meurtres, dans des vols nocturnes. Et ceci est en train d'encourager la justice populaire. Nous demandons toujours que la population puisse collaborer avec les services de l'ordre pour qu'ensemble nous puissions Jigile, ces cas d'insécurité, ces fléaux qui ne cessent de prendre son chemin dans la ville de Bukavu. Et nous interpellons également la justice de pouvoir bien jouer son rôle, afin qu'il puisse punir selon la loi tous les gens qui sont toujours interpellés, qui sont toujours pris dans des vols nocturnes, dans des histoires qui n'honorent pas notre pays.
Actualité internationale.
Au nord du Somaliland, un incendie a ravagé le marché de la ville d'Argaïsia dans la nuit de vendredi à samedi. Au moins 28 personnes ont été blessées par les flammes, a déclaré le président Moussa Bihi Abdi lors de sa visite sur les lieux. L'incendie aurait débuté vendredi dans la soirée et a été maîtrisé samedi à l'aube. L'origine de la catastrophe n'a pas encore été établie. Le maire de la ville d'Abdi Karim, Ahmed Moj, a déclaré que le feu aurait pu être maîtrisé plus tôt, mais les efforts des pompiers ont été entravés par des problèmes d'accès, le marché étant un des dalles de boutiques et des talles improvisées séparées d'étroites allées. En Ukraine, c'est le soulagement dans la région de Kiev après le départ de l'armée russe de toute la région administrative de la capitale, une retraite qui s'est confirmée hier samedi dans de nombreuses localités et qui symbolise déjà pour de nombreux Ukrainiens une victoire militaire dans ce qu'ils appellent la bataille de Kiev. Mais cette victoire génère une grande colère car partout où les troupes russes se retirent, les soldats ukrainiens et la police découvrent un spectacle de désolation. Des destructions d'une échelle effroyable, mais surtout des dizaines de cadavres des civils, certains victimes des combats, mais beaucoup aussi victimes d'exactions et d'exécutions sommaires.
L'invité.
Notre invité est le docteur José Changa, point focal de l'UNICEF dans la province du Maniema. Dans le cadre de la promotion de la vaccination des routines, l'UNICEF a donné des pirogues aux zones de santé riveraines. Docteur José Changa s'entretient avec notre consoeur Florence Kizalunga.
Docteur José Changa, bonjour.
Bonjour.
Dans quel but UNICEF a doté les 8 zones de santé riveraines de pirogues?
Oui, ces pirogues sont dotées dans le cadre du renforcement des pèves des routines pour faciliter l'accessibilité aux structures qui ont des villages le long du fleuve ou le long des grandes rivières.
Il y avait un problème avant pour que UNICEF agisse de la sorte?
Normalement, dans le cadre de vaccination, il y a 3 stratégies qui sont utilisées dans le cadre de la vaccination, disons. Il y a la stratégie fixe, la stratégie mobile et la stratégie avancée. Vous comprenez que dans le cadre de la stratégie avancée ou la stratégie mobile, il faut nécessairement avoir un moyen de transport pour permettre aux prestataires d'atteindre tous les enfants, toutes leurs cibles au niveau de tous les villages de leur zone de santé. Alors, comme il y a des aires de santé avec des villages, des grandes rivières le long des fleuves Congo, pour les atteindre, absolument, il faut avoir des pirogues de manière qu'on ne puisse pas laisser d'autres enfants à la traîne. Donc, dans le cas d'inclusivité, tous les enfants doivent bénéficier, n'est-ce pas, des activités de vaccination.
Quelles sont les zones de santé bénéficiaires de ces pirogues, docteur?
Oui, les zones de santé, il y a la zone de santé de Kindu, Alunguli, Kailo, zone de santé de Kibombo, Kunda, Samba et Lusangi, y compris Kasongo aussi. C'est dans le cadre de plaidoyer que on a essayé un peu de répondre à ces plaidoyers, compte tenu des difficultés qu'ils ont pour atteindre tous ces enfants, compte tenu des couvertures faibles dans les aires de santé par rapport aux enfants qui ne sont pas accessibles. Et c'est dans ce cadre-là pour leur permettre d'améliorer leur couverture vaccinale, d'atteindre tous les enfants, même dans les coins les plus reculés. Donc, nous avons pensé qu'il fallait leur doter les pirogues. Et c'est dans ce cadre que l'UNICEF a pu doter les pirogues à ces zones de santé.
Êtes-vous sûr qu'avec ces pirogues, l'objectif sera atteint?
Je crois que c'est une contribution que l'UNICEF vient de donner et c'est maintenant les prestataires, les équipes cadres des zones de santé concernées qui doivent doubler les efforts parce qu'ils n'auront plus d'excuses pour nous dire que les couvertures sont faibles dans tel ou tel coin à cause des difficultés de transport. Maintenant qu'ils ont les moyens de transport, je crois qu'ils vont s'adonner davantage pour que tous les enfants soient atteints et que les couvertures s'améliorent finalement parce que lorsque les couvertures sont faibles, vous voyez que les zones de santé sont sujettes à beaucoup d'épidémies et je crois qu'il faut faire un effort pour éviter ce genre d'épidémie en atteignant tous les enfants cibles dans chaque zone de santé.
Pirogue sans moteur, comment est-ce que ça va fonctionner?
Bon, effectivement, comme vous l'avez vu vous-même, ce sont des grandes pirogues, de grandes capacités, et qui nécessitent absolument d'avoir des moteurs. Donc, la première étape, c'était d'abord de pouvoir avoir la disponibilité de ces pirogues, donc de les payer, de les acheter. Et la seconde phase, finalement, nécessitera la dotation en pirogues. Parce que tel que vous le voyez là, ce sont des grandes pirogues, de grandes capacités, dont les rames ne peuvent pas vraiment être utilisées. Donc, il faut absolument que le moteur hors bord pour assurer, n'est-ce pas, une bonne circulation. Les moteurs vont suivre. Ça, ce n'est qu'une première étape. Donc, la seconde étape consistera maintenant à doter ces zones de santé de moteurs.
Est-ce une manière pour UNICEF de réitérer son engagement d'accompagner le gouvernement provincial?
Comme on le fait, vous connaissez vous-même l'UNICEF, il s'occupe des enfants, n'est-ce pas? Et en province, il y a beaucoup d'activités qui sont appuyées par l'UNICEF dans beaucoup de domaines, notamment dans la santé, dans la nutrition, dans les roches, dans la protection, dans l'éducation même. L'UNICEF a donné beaucoup de choses dans la province. Donc ça fait partie de ses activités, ça fait partie de son programme dans le cadre du programme actuel, dans le cadre de renforcement des systèmes de santé. Donc l'UNICEF est toujours présent aux côtés du gouvernement provincial pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas, à améliorer les conditions sanitaires des enfants de la province.
Parlant des conditions sanitaires, comment sont les enfants du Maniema?
Bon, les conditions, je crois qu'il y a des contextes, nous évoluons dans des contextes où il y a des épidémies, notamment l'épidémie de rougeole. Ça fait que, entre autres, peut-être les couvertures sont faibles. Ça peut faire de manière aussi que les couvertures étant faibles, ils peuvent expliquer ça par le nombre de séances de vaccination planifiées qui ne sont pas totalement réalisées à cause probablement aussi des manques de moyens de transport pour atteindre tous les enfants. Je crois que ça, c'est une contribution de l'UNICEF pour pouvoir améliorer les conditions des enfants.
Docteur José Tianga, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà comment se referme cette édition de journal sur Radio Okapi. Était à la présentation Billy Ivan Lutumba. Ce journal vous a été préparé par Pierre Oela Menji, Noëlla Luzi Tukisiki et Willem Lungamba assuré la prise de son et la mise en onde.